Vous écoutez, on lit pour vous.
Des proches aidants craignent d'être stigmatisés au travail. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir. Une personne proche aidante sur trois évite de parler de son rôle au travail par crainte de jugement ou de perte de possibilités, révèle un nouveau sondage Léger. Ça nous montre à quel point il y a encore un enjeu d'acceptabilité sociale, déplore Corinne Vachon-Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec famille. Ce qu'on entend beaucoup des personnes proches aidantes, c'est qu'elles ont peur d'être stigmatisées par leurs collègues de travail, ajoute Lauriane Estienne, directrice générale de Proche Aidance Québec. Elles ont peur qu'on leur en tienne rigueur, de vivre des conséquences relativement à leur absence. Autre élément qui ressort de ce sondage publié mardi, c'est que les parents se sentent plus à l'aise que les personnes proches aidantes dans l'utilisation des mesures de conciliation, relève Mme Vachon-Croteau. Ainsi, 68 % des parents disent se sentir à l'aise d'utiliser les mesures de conciliation famille-travail contre 58 % pour les proches aidants. Ça reflète une réalité en organisation où les mesures sont davantage pensées pour les parents. C'est pourquoi il faut continuer de parler de proche aidance, de démystifier cette réalité pour que les personnes proches aidantes se sentent davantage incluses. C'est d'autant plus important que la moitié des proches aidants occupent un emploi, rappelle Mme Estienne. On est dans un contexte de vieillissement de la population, donc il va y avoir une augmentation du nombre de personnes proches aidantes et, par conséquent, une augmentation du nombre de personnes proches aidantes en emploi. Le sondage montre qu'une majorité de proches aidants jugent essentiel que leur employeur offre des mesures concrètes de soutien. Il révèle également que 86 % des proches aidants ayant changé d'emploi dans les deux dernières années l'ont fait pour accéder à de meilleures mesures de conciliation famille-travail. Plus de la moitié des proches aidants disent trouver stressant de devoir négocier des accommodements professionnels. Ce stress est particulièrement élevé chez les répondants qui travaillent dans de très grandes organisations, 69 % ou pour une entreprise qui n'est pas favorable à la conciliation, 71 % ou qui offre des mesures insuffisantes en ce sens, 67 % peut-on lire dans le sondage. Les employeurs peuvent aider à faire diminuer ce stress en mettant en place une politique de conciliation famille-travail qui comporte des balises claires en lien avec la proche aidance, explique Corinne Vachon-Croteau, qui accompagne les entreprises dans la mise sur pied de telles mesures via l'initiative Concilivi, chapeautée par le Réseau pour un Québec famille. Reconnaître la proche aidance. Si la sensibilisation auprès des employeurs est importante, il ne faut pas non plus négliger celle qui se fait auprès du grand public, rappelle Lauriane Estienne de Proche Aidance Québec. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent pas comme des personnes proches aidantes. Et ça, c'est aussi important à prendre en considération. Si la personne elle-même ne se reconnaît pas comme proche aidante, va-t-elle faire appel à un congé famille ou demander l'adaptation de son horaire? Elle ne se sentira pas légitime de le faire. Mais comment un proche aidant pourrait-il ne pas se reconnaître dans ce rôle? Culturellement, on a tendance à trouver ça normal et naturel de prendre soin d'un proche. Donc, on ne se pose pas cette question-là, explique-t-elle. La proche aidance a un impact sur la sécurité financière des personnes et le concept de conciliation proche aidance-travail est essentiel pour réduire le plus possible l'impact de cet appauvrissement-là, ajoute-t-elle. Le sondage a été mené par Léger pour le compte de Concilivi en mai 2025 auprès de plus de 3 000 travailleurs québécois qui sont parents ou proches aidants. C'était « Des proches aidants craignent d'être stigmatisés au travail ». Un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir.
La tape et la fessée en chute libre. Un texte de Judith Lachapelle, paru le 21 octobre 2025 dans La Presse. Crier après un enfant, lui donner une tape ou une fessée, ou pire, un coup de poing. La violence envers les enfants est non seulement en baisse, mais elle est également de moins en moins acceptable aux yeux des Québécois, révèlent de nouvelles données de l'Institut de la statistique du Québec. La patience au lieu de la violence. L'évolution est impressionnante. En l'espace de 25 ans, la violence envers les enfants a chuté au Québec, confirme une nouvelle analyse de l'Institut de la statistique du Québec publiée en octobre 2025. La baisse atteint 40 % dans le cas des agressions psychologiques répétées, 50 % dans celui de la violence physique sévère et 70 % dans le cas des violences physiques mineures. Aujourd'hui, un peu plus du quart des enfants québécois subissent de la violence psychologique, alors que c'était le cas de près de la moitié d'entre eux en 1999. Ce sont de bonnes nouvelles, dit Marie-Ève Clément, professeure au département de psychologie et de psychoéducation de l'Université du Québec en Outaouais et l'une des autrices de l'étude. Mais les chiffres restent élevés, préviennent les spécialistes. On a encore 3 % des enfants qui vivent ce qu'on pourrait considérer comme de l'abus physique si la situation était signalée à la protection de la jeunesse. C'est beaucoup. En 2024, source, enquête sur la violence et la négligence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2024, Institut de la statistique du Québec. 454 180 enfants ont subi de l'agression psychologique répétée. 217 490 enfants ont subi de la violence physique mineure. 50 660 enfants ont été victimes de violences physiques sévères. Père et mère se rejoignent tranquillement. Certains enfants ont besoin qu'on leur donne des tapes pour apprendre à bien se conduire. Il y a 20 ans, le tiers des pères était d'accord avec cette affirmation, alors qu'elle ne ralliait que le quart des mères. Aujourd'hui, moins de 10 % des parents sont de cet avis, et l'écart entre les pères et les mères n'est plus que de 3 %. Même chose en ce qui concerne la fessée. Les pères sont désormais à peine plus nombreux que les mères à considérer cette méthode comme efficace. Peut-être que ça nous dit que les papas sont plus impliqués dans l'éducation des enfants et que les modèles éducatifs qu'ils préconisaient ont changé, observe Marie-Ève Clément. On espère que cette différence va s'estomper avec le temps. Voir ses parents se violenter. L'enquête menée en 2024 met également en lumière l'exposition des enfants à la violence entre partenaires intimes. Dans l'année précédant l'enquête, un enfant québécois sur cinq soit environ 323 880 mineurs, a été témoin ou a eu connaissance de paroles ou de gestes violents entre ses parents ou entre un parent et un ou une partenaire ou ex-partenaire intime. C'est majeur, dit la pédiatre Karine Pépin de l'hôpital Sainte-Justine, qui a pris connaissance de l'étude. Il ne faut pas oublier l'impact de l'exposition à la violence conjugale, à la violence psychologique. Ça a des impacts sur le développement, le bien-être psychologique des enfants à long terme, rappelle-t-elle. Quand ça brasse à la maison, c'est difficile de se concentrer, de se réguler, de dormir. Il faut vraiment continuer à travailler pour que ça diminue. 12%. C'est la proportion de mères biologiques d'enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui ont déclaré avoir subi de la violence physique ou psychologique entre le début de la grossesse et le deuxième anniversaire de l'enfant. La fessée toujours légale. L'attitude des parents à l'égard de la fessée a beau avoir grandement évolué, la législation, elle, n'a pas bougé. La fessée est encore légale au Canada et au Québec, rappelle Marie-Ève Clément. La punition corporelle, comme la tape et la fessée, est permise en respectant certaines balises. Elle doit être de force raisonnable, ne doit pas causer de blessures, ne peut pas être donnée avec un objet, ne peut pas être donnée au visage ou à la tête, ne peut pas être administrée à un enfant de moins de 2 ans ou à un adolescent. Bref, une fessée à un enfant de 5 ans, c'est encore légal au Canada, alors que c'est interdit dans beaucoup de pays, déplore Mme Clément. C'est le seul article du Code criminel qui permet des gestes de violence envers quelqu'un. L'interdire, dit Mme Clément, enverrait un message clair aux parents qui y ont encore recours. Des enfants négligés au Québec en 2024. Source, enquête sur la violence et la négligence familiale dans la vie des enfants du Québec 2024, Institut de la statistique du Québec. 26 630 enfants souffraient de négligence sur le plan cognitif ou affectif, 1,7%. 100 260 enfants souffraient de négligence de supervision, 6%. 10 430 enfants souffraient de négligence physique, 0,6%. Une étude unique au monde. Le constat avait été posé au début des années 1990. À la remise de son rapport, Un Québec fou de ses enfants, en 1991, le psychologue Camille Bouchard et son équipe avaient déploré le manque de données pour mesurer la violence faite aux enfants. Ça a donné l'impulsion à ce projet d'enquête, dit le statisticien Alexandre Morin de l'Institut de la statistique du Québec. Un projet d'envergure unique au monde, relèvent les auteurs, qui rend les comparaisons d'autant plus difficiles. Par ailleurs, cette période de 25 ans a été marquée par de nombreux événements qui ont contribué à changer les perceptions des parents à l'égard de la violence, dont la mort de la fillette de Granby en 2019, suivi par la commission présidée par Régine Laurent sur le système de protection de la jeunesse. Si la violence à l'égard des enfants est de moins en moins acceptable, se peut-il que les parents évitent de dire la vérité lorsque sondés à ce sujet? C'est sûr qu'il peut y avoir un biais de désirabilité sociale, dit Alexandre Morin. C'est pourquoi la stratégie d'enquête doit s'adapter pour le contourner. On ne cherche pas à savoir qui est l'agresseur, dit-il. On veut savoir s'il y a un adulte dans le ménage qui aurait commis tel ou tel geste concret. Les données collectées sont anonymes, les parents répondants ne peuvent pas être retrouvés et répondent désormais aux questionnaires en ligne plutôt qu'au téléphone. 6248. Nombre de parents d'enfants de 6 mois à 17 ans qui ont participé à l'étude en 2024. C'était « La tape et la fessée en chute libre », un texte de Judith Lachapelle paru le 21 octobre 2025 dans La Presse.
D'Ange gardien a oublié, un texte de Marie-André Chouinard, paru le 29 décembre 2025 dans Le Devoir. Printemps 2020. Pendant que le virus de la COVID-19 fait ses ravages partout sur le globe, le Québec découvre l'ampleur de sa propre vulnérabilité. Dans nos centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, une véritable hécatombe se prépare. Quelques 5 000 personnes âgées y perdront la vie, parfois dans des circonstances atroces. Déjà fragilisé, le réseau de la santé menace de s'effondrer pendant cette catastrophe. Dans ce contexte d'urgence extrême, un groupe majoritairement composé de femmes issues de l'immigration récente vient au secours d'une société qui n'avait pas tout fait pour les inclure. Préposée aux bénéficiaires, infirmières, ces courageuses, dont plusieurs étaient demandeuses d'asile, vivaient dans la précarité, sans statut de résidence permanente au pays. À grands coups de remerciements sincères pour leur soutien indéfectible en période de crise, le premier ministre François Legault leur décerne le titre d'ange gardien. L'étiquette s'est infiltrée dans presque tous les points de presse quotidiens du gouvernement. Au moment où tout le monde désertait ces établissements devenus des mouroirs, les anges ont volé au secours des survivants. Ces femmes ont accepté l'inimaginable. Travailler 10, 12, 15 jours consécutifs, enchaînant les quarts de travail dans des conditions pénibles. Prendre soin de malades contagieux avec de faibles mesures de protection pour elles-mêmes. Désinfecter, nourrir, laver, soigner des résidents littéralement abandonnés. Elles ont risqué leur vie et celle de leur famille au cours d'une première vague où aucun vaccin n'avait encore été administré. Certains sont morts lors de cette crise, comme le préposé aux bénéficiaires Marcelin François, foudroyé par une embolie pulmonaire consécutive à la COVID en avril 2020. Monsieur François et sa famille étaient arrivés au Canada en 2017 par le chemin Roxham, après avoir quitté leur Haïti natal. Le parcours de ces travailleuses est emblématique d'une injustice systémique brutalement mise en lumière au cours de la pandémie. Selon les données recensées par Statistique Canada en 2016, un quart des personnes immigrantes adultes nées en Haïti exerçaient la profession d'infirmière ou d'aide aux soins de santé au Canada. Ces femmes, surreprésentées dans les métiers les plus précaires du réseau de la santé, sont devenues la main-d'œuvre d'urgence sur laquelle le Québec s'est appuyé pour éviter l'effondrement total. Sans elles, disons-le, l'hécatombe aurait été plus grave. Mais une fois le pire passé, qu'est-il advenu de notre belle gratitude collective? En août 2020, Ottawa et Québec ont annoncé conjointement un programme de régularisation pour ces anges gardiens ayant travaillé durant la pandémie. L'initiative semblait prometteuse. Reconnaître l'ampleur du sacrifice en leur offrant un chemin vers la résidence permanente. Mais les critères restrictifs ont rapidement transformé cette promesse en désillusion. Les exigences ont exclu des milliers de travailleurs essentiels. Les agents de sécurité qui transportaient les corps et désinfectaient les zones infectées n'étaient pas admissibles. Les préposés, ayant accouché durant la période visée, malgré des mois de service avant et après, ont été rejetés. Les aides de service accomplissant quotidiennement des tâches de préposés mais sans le titre officiel, se sont heurtés à des refus bureaucratiques. En décembre 2024, on calculait que, sur plus de 13 000 demandes reçues dans l'ensemble du Canada, quelques 9 000 personnes ont reçu la résidence convoitée. Le Québec en avait alors admis 3 600 sur un total de 4 300 personnes qui se qualifiaient. Didier, un Ivoirien ayant travaillé comme agent de sécurité pendant la pandémie, s'est confié à Radio-Canada au printemps dernier. On a dit qu'on a fait un travail remarquable. On nous a surnommés les anges gardiens, mais après la fin de la pandémie, on nous a jetés comme des sacs à poubelle, a-t-il dit au journaliste Romain Chouet. Le traitement réservé à ces travailleurs pose une question fondamentale sur notre rapport à l'autre et à la reconnaissance. On y décèle une forme d'hypocrisie et une vision instrumentaliste de l'immigration axée sur son caractère utilitaire. L'héritage des anges gardiens réside peut-être dans ce qu'ils nous ont exposé de nous-mêmes. Un système de santé reposant de manière totalement disproportionnée sur le travail précaire de personnes migrantes et racisées. Notre incapacité collective à traduire la gratitude en politique concrète de justice sociale. Le legs des anges gardiens passe par un appel à la cohérence. On ne peut décemment prétendre valoriser ceux et celles qui prennent soin de nous tout en les maintenant dans la précarité et la peur de l'expulsion. Le respect et la dignité s'incarnent dans des gestes concrets. Régulariser les statuts, offrir des salaires décents, garantir des conditions de travail sécuritaires, faciliter l'intégration. Tant que nous n'aurons pas honoré cette dette morale envers ceux et celles qui nous ont sauvés, le souvenir des anges gardiens restera une tache indélébile sur notre conscience collective. C'était D'anges gardiens à oublier, un texte de Marie-André Chouinard, paru le 29 décembre 2025 dans Le Devoir.
Accessibilité des stations EXO, des groupes dénoncent des coupures. Un texte d'Erika Morris de CTV News Montréal, publié en français sur le site de Nouveau. EXO, le principal réseau ferroviaire et de bus de banlieue de Montréal, abandonne ses projets et investissements à long terme en raison d'une crise financière, ce qui suscite la réaction des défenseurs de l'accessibilité. La société de transport a promis au Québec de réduire ses dépenses de 600 millions de dollars sur 10 ans, ramenant ses dépenses d'investissement de 2,5 milliards à 1,9 milliard de dollars. Ce texte est une traduction d'un article de CTV News. Afin de pouvoir se concentrer sur l'entretien de ses actifs, EXO doit reporter la construction de garages pour véhicules électriques et ralentir ses investissements dans le matériel roulant, entre autres investissements à long terme. EXO affirme que les usagers ne seront pas affectés car ses actifs seront consacrés au maintien des services et qu'elle ne touchera pas à son budget d'exploitation. Mais pour ceux qui comptaient sur les plans d'accès universel d'EXO, cette nouvelle est un coup dur. Le directeur général d'EXO, Marc Rousseau, a confirmé que l'agence avait également dû réduire ses investissements dans l'accessibilité qui, selon lui, ne sont pas financés par le gouvernement. Steven Laperrière, directeur général du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, RAPLIC, affirme que ce sont souvent les personnes handicapées qui sont laissées pour compte lorsque les services sont sous-financés. L'adaptation des stations pour l'accès universel comprend l'ajout de rampes, d'ascenseurs, de revêtements de sol spéciaux pour les personnes aveugles et utilisant une canne, d'une signalisation appropriée pour les personnes malentendantes, etc. Cela signifie qu'ils peuvent aller où je vais sans difficulté, car je ne suis pas handicapé. Je ne suis pas une personne handicapée, a dit M. Laperrière. Cela signifie que l'accès physique est facile. L'accès aux indications est facile, que vous soyez aveugle ou sourd, ou les deux, et vous avez accès à tous les services offerts au grand public. Déjà déçus par le report de l'accès universel sur la ligne de train de Saint-Jérôme, ils craignent que les coupes dans les transports collectifs à travers la province n'affectent de manière disproportionnée les personnes handicapées. En leur refusant leur droit à un transport adapté ou accessible, vous leur refusez leur droit à la liberté. Stephen Laperrière, directeur général du Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, réplique. Vous leur refusez peut-être le droit d'étudier. Vous leur refusez leur droit d'aller à l'hôpital grâce à un service qui est normalement offert à tout le monde. C'est donc ce que vous faites, et c'est toujours comme ça, a poursuivi M. Laperrière. Marc Rousseau d'Exo souligne que toutes les autorités de transport public de la région métropolitaine de Montréal se mobilisent pour combler un déficit de plus de 560 millions de dollars. Il ajoute qu'Exo est engagé en faveur de l'accessibilité, mais qu'il n'y a aucune subvention disponible pour financer ce type de projet aujourd'hui. Nous devons continuer à travailler pour nous aligner sur la subvention dont nous disposons et nous devons ajuster nos délais pour respecter ces subventions, a-t-il expliqué à CTV News. Dès que l'argent sera disponible, nous remettrons ce type de projet sur la table. Mais pour l'instant, rien ne nous indique que ce type de projet sera subventionné. CTV News a contacté le ministère des Transports pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse immédiate. Marc Rousseau affirme que les coupes annoncées constituent une première réponse aux problèmes financiers de la région de Montréal et que plus de détails seront fournis en janvier, lorsqu'Exo présentera son budget 2026. Stephen Laperrière, quant à lui, espère que le Québec repensera le modèle de transport public et réinvestira dans des transports adaptés. C'était Accessibilité des stations Exo, des groupes dénoncent des coupures. Un texte d'Erica Morris de CTV News Montréal, publié en français sur le site de Nouveau.